BFM Bourse, l'écho du monde.
L'écho du monde, oui, car on a du pain sur la planche. Et c'est Gilles Mouek qui nous accompagne aujourd'hui, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles Mouek, merci de répondre à l'appel de BFM Business en ce 9 mai. Pour revenir notamment sur cette décision de la Banque d'Angleterre qui était attendue au tournant aujourd'hui. À 13h, elle a annoncé qu'elle laissait ses taux inchangés, mais son gouverneur a très clairement ouvert la voie à des baisses de taux.
Oui, la porte est largement ouverte. Alors, à noter déjà que deux membres du Conseil de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre ont voté pour une baisse des taux dès aujourd'hui. Donc un de plus que la dernière fois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des membres dits internes de la Banque d'Angleterre qui a rejoint un membre externe pour demander cette baisse de taux rapide. Donc on sent que voilà, il y a une certaine ébullition au sein de la Banque centrale britannique. Et dans son intervention, même s'il s'est gardé de promettre une baisse de taux au mois de juin, on a quand même senti que tout concourait maintenant à ce que la Banque d'Angleterre puisse commencer à réduire un peu le niveau de restriction de la politique monétaire. De toute manière, on va probablement dans les deux mois qui viennent voir une baisse assez accusée de l'inflation pour des raisons essentiellement techniques qui tiennent au calendrier de l'évolution des prix d'énergie. Mais ça va probablement créer la fenêtre d'opportunité pour que la Banque d'Angleterre commence à baisser ses taux. Elle va, je pense, rester prudente parce que on a toujours des signaux du marché du travail, en particulier au Royaume-Uni, qui sont des signaux de robustesse, avec une augmentation des salaires qui est tout à fait sensible. Donc je ne pense pas que la Banque d'Angleterre ira nécessairement très vite, mais voilà, la direction du voyage est maintenant assez claire.
Avec notamment des prévisions d'inflation qui ont été revues à la baisse, puisque désormais la BOE prévoit 2,6% d'inflation contre 2,8%. Bon, ça c'est une bonne nouvelle pour le Royaume-Uni, pour l'Angleterre, puis c'est aussi une bonne nouvelle pour l'Europe dans son ensemble. Ça confirme un petit peu la dynamique de la BCE.
Oui, on sent que dans toute l'Europe, la direction est assez convergente. On a eu une première baisse de taux de la Banque nationale suisse il y a quelques semaines. On a eu la Banque centrale suédoise hier qui a baissé ses taux de 25 points de base et qui a décidé de ne pas attendre la BCE, alors même qu'on sait que pour des raisons de contrôle de son taux de change, la Banque centrale suédoise cherche en général à imiter le plus possible la BCE. Là, elle fait le mouvement sans attendre. Bon, la situation macroéconomique de la Suède est beaucoup moins bonne que celle de la zone euro, mais je trouve que le signal est intéressant. Donc là, on est face à une espèce d'émancipation monétaire de la part des banques centrales européennes. Les signaux en provenance de la BCE sont également assez clairs pour une baisse des taux au mois de juin. Donc on aurait toutes les banques centrales, les grandes banques centrales européennes, alignées avec des baisses de taux assez synchrones sur le mois de mai ou le mois de juin. Donc ça laisse quelque part la Fed dans une espèce de splendide isolement, même si on s'aperçoit que les toutes dernières données conduisent quand même à plutôt attendre là aussi le début de la baisse des taux du côté des États-Unis, finalement peut-être un peu plus rapidement que ce que le marché s'était mis à attendre il y a maintenant 2 ou 3 semaines où la grande discussion sur le marché c'était l'impossibilité peut-être pour la Fed de baisser ses taux du tout en 2024. Je pense qu'on a regagné un peu plus de confiance dans le marché.
Avec notamment Jerome Powell, on se souvient, lors de sa réunion du 1er mai, qui a exclu des hausses de taux. Ça a vraiment rassuré le marché et c'est impressionnant de voir l'obligataire aux États-Unis qui s'est détendu d'une façon assez spectaculaire quand même.
Oui, c'est vrai. Alors, on a des mouvements de gouvernail du marché s'agissant de la Fed qui sont un tout petit peu trop amples, honnêtement. Au début de l'année, on avait un marché qui s'attendait à beaucoup trop de taux de la part de la Fed. Je pense que c'était totalement irréaliste de compter sur 150 points de base de baisse qui était ce que le marché attendait encore au mois de janvier. Mais de manière asymétrique, le grand stress d'il y a 2 ou 3 semaines avec ces discussions effectivement encore minoritaires, mais elles étaient quand même intéressantes de la possibilité d'une hausse des taux de la part de la Fed, ça avait poussé les taux longs très nettement à la hausse. On avait touché les 4,75%. On est repassé en dessous de 4,5%. Et je pense que ça fait sens parce que c'est vrai qu'à la différence de l'Europe, les États-Unis font face à des signaux du côté de l'inflation qui sont quand même moins clairs. On a eu 3 mois de mauvaises données du côté de l'inflation aux États-Unis, alors que du côté européen, les choses vont quand même plus clairement dans la bonne direction. Donc, que la Fed prenne son temps, ça me paraît tout à fait juste et normal. Maintenant, de là à s'attendre à ce que la Fed ne puisse pas du tout baisser ses taux ces années, ça me paraît assez exagéré. On a eu un PIB au premier trimestre qui était un tout petit peu faiblard, si je puis dire, en tout cas qui était en deçà du taux de croissance potentiel de l'économie américaine pour la première fois depuis la fin 2022. On pouvait dire que c'est accidentel, mais depuis lors, on a eu des enquêtes, par exemple l'enquête ISM, qui est assez mauvaise, à la fois dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services. On a une confiance des ménages qui s'est dégradée aux États-Unis, et puis on a eu ces informations sur le marché du travail, qui reste relativement robuste, mais avec une décélération des salaires assez notable pour le mois d'avril. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que les ingrédients sont doucement en train de se mettre en place pour que la Fed puisse baisser ses taux au mois de septembre. Ce qui fait que, à quelques mois près, on aura finalement une assez grande convergence du côté de l'Atlantique.
Et du côté des anticipations de baisse de taux, quel est votre scénario chez AXA? Alors c'est, comme vous l'avez dit, très variable. On voit notamment sur FedWatch que ça bouge de jour en jour, mais il y a une petite majorité qui semble voir une baisse de taux dès le mois de septembre.
Ça, c'est mon cas. Jusqu'à très récemment, on s'attendait à ce que la Fed puisse baisser ses taux au mois de juin. Ça paraît maintenant évidemment très difficile. Donc c'est septembre qui est maintenant notre baseline, qui sera suivi par une baisse supplémentaire de 25 points de base au mois de décembre. Donc deux baisses de taux sur 2024. Et par rapport à là où est le marché aujourd'hui, donc le marché est à peu près à mi-chemin, c'est-à-dire qu'on a un peu moins de baisses de taux qui sont pricées pour 2024. Moi, je suis un peu plus confiant et je pense, par exemple, qu'on pourrait avoir un signal assez net de la Fed dès le mois de juillet, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas de baisse de taux effective de la part de la Fed, mais que le discours de Jay Powell soit si clair que la baisse de taux du mois de septembre devienne vraiment presque gravée dans le marbre.
Comment vous voyez aujourd'hui les marchés actions évoluer, sachant, je le disais en préambule, qu'ils sont sur des plus hauts historiques en Europe? Du côté de Wall Street, ça tient très bien également, alors qu'il y a encore pas mal d'incertitudes sur le plan monétaire, sur le plan politique aux États-Unis. Bref, on a quand même un marché actions qui est très résilient en ce moment.
Alors, du côté européen, ça ne me surprend pas nécessairement parce que on avait une valorisation de marché actions en Europe qui était quand même relativement déprimée par rapport à ce qui se produisait aux États-Unis. Et comme on a l'impression d'un certain rééquilibrage sur la conjoncture, on a eu plutôt une bonne surprise sur le PIB dans la zone euro au premier trimestre. On a plutôt l'impression qu'on est en train de passer un peu de l'autre côté de l'ornière du côté européen, même si je m'attends à des chiffres encore assez médiocres. Donc cette bonne tenue du côté européen ne m'étonne pas vraiment. Du côté américain, là j'ai un peu peur qu'il y ait un enthousiasme un peu exagéré, parce que certes, la perspective de baisse de taux est bienvenue et va bien évidemment soutenir les cours des actions qui sont les plus sensibles qui sont les plus endettées, qui sont les plus sensibles au taux d'intérêt. Mais pour qu'il y ait baisse de taux de la Fed, il faut qu'il y ait ralentissement de la croissance. Et normalement, un ralentissement de la croissance s'accompagne de mauvaises nouvelles du côté des résultats des entreprises. Et c'est ça qui me chagrine un tout petit peu dans le comportement du marché aux US. Cet oubli, quelque part, que pour que la Fed baisse ses taux, ce qui est effectivement central et aujourd'hui la centrale du marché, mais il faut qu'on passe par une phase de croissance faible aux États-Unis. Et ça n'est pas complètement cohérent avec les valorisations actuelles.
Donc plutôt prudent sur la zone Amérique. Et sur les taux, quand vous voyez des taux à 4,50, bon, le plus gros est fait. Normalement, les taux longs devraient refluer cette année.
Oui, mais je pense là, c'est un peu la même chose que sur le marché actions. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore tellement de grains à moudre sur la baisse des taux longs. Parce qu'un point qui, moi, me paraît quand même très important dans tout ça, c'est que même s'il y aura le début d'une baisse des taux de la part des banques centrales, je pense que cette baisse sera contenue, sera très mesurée, que le taux terminal, c'est-à-dire le taux d'intérêt auquel on arrivera à la fin du cycle de baisse, restera beaucoup plus élevé que les niveaux auxquels on était habitués avant le Covid. Et puis surtout, on est toujours dans une phase où les déficits publics, en particulier aux États-Unis, sont extraordinairement élevés. Et ça se traduit par une offre obligataire aux États-Unis qui est absolument massive, qui est forte aussi en Europe, mais qui est absolument massive aux États-Unis. On se dirige vers des élections en novembre, bien évidemment. Et du côté des Républicains, par exemple, les projets sont là, d'une prolongation des baisses d'impôts qui avaient été consenties en 2017, qui accroîtraient encore le déficit et donc la pression sur le marché obligataire. Donc je pense que là, le potentiel de baisse, encore une fois, sur la partie longue de la courbe est peut-être un peu limité.
Dernière question, quels sont les signaux, les événements que vous surveillez, les points d'attention aujourd'hui que vous pouvez communiquer pour nos auditeurs téléspectateurs ?
Je pense que la clé, elle est vraiment dans le marché du travail américain. C'est ça qui sera, pour moi, le signal le plus important pour la Fed, qui permettra de débloquer, en fait, la situation. Et pour l'instant, donc, on a eu une première indication avec des payrolls du mois d'avril qui était décevant. Maintenant, c'est une série qui est très volatile, mais c'est celle que tout le monde va regarder de plus près. Si on s'aperçoit que les chiffres du mois de mai, ceux du mois de juin confirment cette tendance au ralentissement du marché du travail, là, on pourra, de manière beaucoup plus libre, presser des baisses de taux de la Fed. C'est vraiment là où tout se joue. C'est sur cette résilience, pour l'instant, assez surprenante du marché du travail américain. Si ça devait prendre fin, ce qui est mon scénario central, on pourra vraiment s'attendre à des baisses de taux relativement rapides.
Très clair. Merci beaucoup, Gilles Mouek, de nous avoir accordé quelques minutes aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes chef économiste du groupe AXA.